VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Dion.
À Washington, il est 7 du matin, 11 heures en temps universel. Bonjour à tous. Les partisans de nombreux partis d'opposition ont commencé à se regrouper aujourd'hui dans 10 villes à travers le Togo pour manifester. Le gouvernement a joué l'apaisement en annonçant des réformes constitutionnelles hier en Conseil des ministres concernant la limitation des mandats et le mode de scrutin que l'opposition réclame depuis plus de 10 ans au régime du président Faure Gnassingbé. Malgré le pas en avant du gouvernement et du chef de l'État, l'appel à manifester dans 10 villes du Togo a été maintenu. Le président Faure Gnassingbé, vous en souvenez, a succédé il y a 12 ans à son père, lui-même resté au pouvoir près de 40 ans. Au Kenya, le principal candidat de l'opposition a fait monter les enchères en ce qui concerne sa participation au nouveau scrutin présidentiel. Raila Odinga conteste à la date du 17 octobre fixée par la commission électorale. Il veut un audit approfondi du système électronique de la commission, exige la démission de plusieurs de ses membres et souhaite la prise en compte de tout candidat éligible. Mais son rival, le président sortant Uhuru Kenyatta, a rejeté tout remaniement en profondeur de la commission électorale. Benoît Hazard, anthropologue chargé de recherche au CNRS et spécialiste du Kenya, pense que le pays fonce tout droit vers un bras de fer.
Je pense que le positionnement qui est celui de Raila Odinga, quand il dit qu'effectivement il se retirera de l'élection si le processus ne peut pas aboutir, est un positionnement qui va là, non pas du côté du juridique et du recours à la Cour suprême, mais plutôt du côté de l'appui de la rue. Il y a 3 jours, Ruto et Kenyatta se sont rendus dans le comté de Narok, qui leur était acquis en 2013. Ils ont été hués par la foule, décrits comme des voleurs dans un comté qui ne leur est plus, a priori, acquis. Il y a un vrai rapport de force, y compris avec les forces de la rue, qui est en train de se constituer.
Le français, l'analyste français Benoît Hazard. Le Nigeria a convoqué le chargé d'affaires sud-africain à Abuja pour protester contre le décès d'un Nigérian qui serait mort étouffé par des policiers sud-africains lors d'une garde à vue. Selon un communiqué des autorités nigériennes publié mardi, Kingsley Ikeri, âgé de 27 ans, résident dans la province sud-africaine du KwaZulu-Natal, a été étouffé à mort par la police sud-africaine qui le soupçonnait de trafic de drogue. Kingsley Ikeri serait mort le 30 août. L'autorité du bassin du fleuve Niger a lancé hier une alerte sur des risques d'inondation dans la capitale du Niger, Niamey, où des pluies torrentielles ont déjà fait 17 morts depuis juin. Des inondations qui touchent plusieurs régions du Niger, comme en témoigne l'assistante au programme environnement du PNUD Niger, Salamatou Ima Moukaïla.
Actuellement, il pleut beaucoup à Niamey. Comme c'est la saison pluvieuse, plus précisément en août, vous savez, il pleut beaucoup ici. Donc, effectivement, il y a beaucoup d'inondations.
Parlez-moi un petit peu de la situation à Takoro. Est-ce qu'il pleut également là où vous êtes?
Bien sûr, il pleut beaucoup là-bas. Parfois, seulement que les maisons tombent et c'est difficile de sortir sous la pluie. Bon, au Niger, comme nous, naturellement, on n'est pas habitué à beaucoup de pluie. Donc, quand il pleut, les gens ne sortent pas ici. Parce que nous, on n'a que 3 mois de saison pluvieuse en tout dans l'année.
Alors, vous êtes spécialiste du changement climatique. Est-ce que pour vous, il s'agit juste d'une saison complètement normale ou est-ce que le réchauffement climatique entraîne plus de pluie torrentielle et plus d'inondations?
Voilà, c'est clair que c'est dû au changement climatique parce que ça fait quand même quelques années que ce n'est pas la même situation qui s'est passée ici au Niger et partout d'ailleurs à l'intérieur du pays.
Qu'est-ce qui a changé?
Et ça a changé parce que là, durant la saison pluvieuse, les 3 mois où il pleut ici abondamment, il pleut beaucoup, il y a des inondations, il y a des torrents, il y a plusieurs catastrophes, quoi. Il y a même des noyades, tout ça dans l'eau. Et le fait que les maisons sont détruites aussi. En plus, c'est quand il fait chaud aussi, il y a un changement. Il fait très chaud ici, au Niger. Là, il fait plus chaud. Et les pluies sont rares et quand les pluies viennent, c'est des pluies diluviennes.
Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour essayer de contrer ces inondations, à votre avis?
Moi, je pense que pour contrecarrer ces genres de fléaux, il faut essayer de juste sensibiliser la population par rapport à ces genres de pluies-là. Déjà, nous, notre projet là-bas à Dakar, on a mis en place des pluviomètres. On apprend aux villageois à lire les millimètres de pluie qu'ils ont reçus et tout ça. Quand il y a beaucoup de pluie, au moins, ils peuvent nous communiquer. Il faut évacuer, il faut sensibiliser parce que on a toujours dit qu'on ne peut pas lutter contre les changements climatiques, mais on peut mettre en place des options d'adaptation en fait. C'est-à-dire on peut aider la population à s'adapter, mais on ne peut pas carrément empêcher les changements là.
Salamatou Ima Moukaïla, assistante au programme environnement du PNUD Niger, jointe par Claire Morin-Gibou. Les autorités espagnoles et marocaines ont annoncé mercredi l'arrestation de 6 hommes, membres d'une cellule terroriste djihadiste qui préparait des attaques de grande envergure en Espagne et au Maroc. Ces arrestations ont été annoncées 3 semaines après les attentats revendiqués par l'organisation État islamique qui ont fait 16 morts et plus de 120 blessés en Catalogne, dans le nord-est de l'Espagne. Ces attaques avaient été perpétrées par de jeunes gens de nationalité marocaine ayant grandi en Espagne. À Washington, il est 7h05.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Ici aux États-Unis, des législateurs clés appellent à l'adoption d'un projet de loi pour protéger quelques 800 000 drummers, c'est-à-dire des jeunes en situation irrégulière après être entrés dans le pays en bas âge, en compagnie de leurs parents. Le président Donald Trump a décidé de mettre fin au programme de son prédécesseur Barack Obama qui permet à ces jeunes sans papier d'étudier et de travailler sur le sol américain. Le Congrès doit trouver un compromis sur ce dossier avant le 5 mars 2018. Emilio Viano, professeur de sciences politiques à American University de Washington, analyse les intentions du président Trump.
Le président a été très intelligent à le mettre dans le même du Congrès. Pourquoi? Parce qu'il veut, d'un côté, maintenir la pureté de ses promesses, de son message à ceux qui ont voté pour lui. Si le Congrès ne passe pas une loi dans les prochains 6 mois, je dois agir parce qu'on doit faire quelque chose. Si le Congrès approuve une loi qui signifie l'expulsion de ces jeunes gens, il peut toujours dire « je demandais l'opinion des élus du pays, je ne l'ai pas fait moi-même ». S'ils ne le font pas, il peut dire « le Congrès n'est pas actif, on ne peut pas compter sur eux, ils sont toujours dans des luttes idéologiques, mais je sois le président, je sois un homme d'affaires, je dois intervenir, je dois faire quelque chose pour sauver le pays et je n'ai pas le choix ».
Emilio Viano, professeur de sciences politiques à American University, ici à Washington. L'ouragan Irma, d'une intensité sans précédent sur l'Atlantique, a frappé aujourd'hui l'île de Barbuda ce matin et s'approchait de l'île française de Saint-Barthélemy et de la franco-néerlandaise Saint-Martin, placée en alerte maximum. L'ouragan devrait ensuite poursuivre sa route vers les îles Vierges américaines et Porto Rico avant de toucher peut-être ensuite Haïti et la Floride. Le président américain Donald Trump a déclaré les îles Vierges, Porto Rico et la Floride en état d'alerte, tandis que l'évacuation des îles de Key West dans l'extrême sud de la Floride était déjà en cours. Le gros de l'ouragan est attendu en Floride à partir de vendredi. Le pape François est attendu, lui, en Colombie, en messager d'une paix encore fragile. La visite du souverain pontife intervient à un moment crucial après l'accord de paix conclu l'an dernier entre le gouvernement de Bogota et la guérilla marxiste des FARC et le cessez-le-feu temporaire annoncé lundi par l'autre guérilla, celle de l'ELN, non signataire de l'accord. La guerre civile qui a ravagé la Colombie pendant 52 ans a fait quelque 260 000 morts, 45 000 disparus et 6,9 millions de personnes déplacées. François est le troisième souverain pontife à se rendre en Colombie après Paul VI en 1968 et Jean-Paul II en 1986. L'atterrissage de l'avion transportant le pape est prévu à Bogota à 21h30, temps universel. Et pour terminer ce journal, le procureur général du Brésil a inculpé mardi les ex-présidents Luiz Inácio Lula da Silva et Dilma Rousseff pour organisation criminelle visant à détourner des fonds de la compagnie pétrolière d'État Petrobras. Luiz Inácio Lula da Silva, icône de la gauche latino-américaine, avait présidé le Brésil de 2003 à 2010. Dilma Rousseff, première femme à diriger ce pays, lui avait succédé en 2011. Lula, âgé de 71 ans maintenant, nie toutes les accusations en bloc et se dit victime d'un complot visant à l'empêcher de se présenter à l'élection présidentielle de 2018. Point final à ce journal. Le prochain, c'est dans 50 minutes avec Henri Francisque. Bon après-midi partout sur le continent.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique. No time.